Oui.
À cause d'une défectuosité technique, nous avons été obligés de réenregistrer le début de la cassette. Mes chers amis, le thème qui a été annoncé pour cette retraite à la Villa Shalom est, comme vous en avez pris connaissance, les caractères d'un homme de Dieu. Quand les organisateurs d'une retraite ne me proposent pas eux-mêmes un thème pour les rencontres qu'ils ont préparées, je me tiens devant Dieu pour recevoir de lui les sujets qui pourront correspondre aux besoins spirituels de ceux qui participeront à ces réunions et que je ne suis pas censé connaître. C'est ainsi que, pour les moments que nous passerons ensemble en ce lieu, j'ai reçu dans mon cœur le titre qui vous a été annoncé. Il ne sera pas question pour moi de vous exposer mes pensées personnelles sur ce sujet. Notre seule source sera l'Écriture sainte, lue et méditée sous la mouvance de l'Esprit-Saint. En sondant les Écritures, selon les exhortations de Jésus s'adressant aux Juifs de son temps, nous serons sans cesse mis en contact avec sa personne adorable. C'est ainsi que nous lisons en Jean chapitre 5, verset 39, ces paroles du Christ aux Juifs. Vous sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui parlent de moi. Car Jésus a été réellement la parole, cette chair, le Fils unique qui est dans le sein du Père et qui seul nous fait connaître le vrai Dieu dont il est la parfaite image, comme nous le lisons dans Jean chapitre 1. Verset 18, « Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. » Pour discerner les caractères d'un homme de Dieu, il est donc premièrement nécessaire de connaître Dieu d'une manière intime et personnelle. Mais quand nous disons « connaître », il ne s'agit pas d'une simple information que nous aurions trouvée dans la nature ou dans la Bible, mais d'une connaissance qui est une révélation, une relation, une union et qui devient une identification. C'est cette connaissance que Jésus appelle dans sa prière du chapitre 17 de Jean, la vie éternelle. C'est ici, dit-il, la vie éternelle, qu'il te connaisse, seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Et ce qui est touchant quand nous relisons cette prière, c'est de constater que Jésus a prié pour que ses disciples possèdent la vie éternelle, ainsi que tous ceux qui croiraient en lui par leurs paroles. Verset 20. Donc, nous sommes assurés que Jésus a prié dans la nuit où il fut livré, pour chacun de nous qui sommes réunis ici en ce mois d'octobre 1987. Et comme vous le savez, les prières de Jésus sont toujours exaucées. C'est merveilleux de penser que le Seigneur, à Gethsémané, a prié pour nous. Nous étions déjà dans son cœur. Ainsi, nous n'aurons dans ces journées pas à faire avec le Dieu de notre imagination, éclairé par notre seule raison et notre intelligence humaine qui admet le bien fondé de l'existence de Dieu, mais avec le Dieu de la révélation que nous trouvons dans les Écritures, dont la lecture nous amène à la foi, selon Romains 10, verset 17e, qui déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et par la lecture de la parole de Dieu, quand nous la croyons, cette foi devient alors l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas, comme nous le lisons dans Hébreux 11, verset 11. 1. Cette foi n'est pas qu'une adhésion intellectuelle à certaines vérités découvertes dans la Bible, mais un abandon total et une obéissance du cœur à la personne que les Écritures nous révèlent. Je suis souvent attristé d'entendre certains prédicateurs parler de la foi comme étant une aventure, l'aventure de la foi. Or, la foi n'est jamais comparée à une aventure dans les Écritures, mais la foi est définie comme une obéissance. L'obéissance de la foi. Romains chapitre 1 verset 5. Et au sujet d'Abraham, il sera dit qu'il a obéi. Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Et c'est par cette obéissance qu'il a été justifié. Je voudrais souligner maintenant qu'il faut d'abord appartenir à Dieu pour comprendre ce que peuvent être les caractères d'un homme de Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup se prétendent être des hommes de Dieu. Et c'est pourquoi il est important de sonder les Écritures pour apprendre ce qu'elles nous disent d'un Dieu authentique, quels en sont les caractères. Je m'adresse donc humblement à votre conscience et à votre cœur en ce courant du mois d'octobre 1987, et je vous demande solennellement, à qui appartenez-vous ce soir? Pour qui êtes-vous conscient de vivre aujourd'hui? Et ces questions, je me les pose à moi-même, parce que j'ai toujours besoin d'être exhorté. sommes-nous encore à nous-mêmes ou appartenons-nous au Christ? Avons-nous rencontré Jésus-Christ? Et avons-nous répondu à son appel? Cet appel qui éclaire tout l'Évangile et qui est formulé ainsi: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Nous avons cette parole dans Luc au chapitre 9, au verset 23e. Et aujourd'hui, pouvons-nous faire nôtre les paroles de l'apôtre Paul que nous lisons en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 21. Je me permets de vous les lire. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous presse, ou selon une autre version, nous étreint, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Une autre version dit: l'amour du Christ nous étreint parce que nous avons jugé ceci. J'aime beaucoup cette expression, nous avons jugé ceci, c'est quelque chose qui est jugé, c'est quelque chose sur le, une chose sur laquelle nous ne revenons plus. Nous l'avons jugé, si quelqu'un est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhortant par nous, nous vous en supplions. Au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. J'ajouterai encore un autre texte que nous trouvons dans Galates 2, versets 19 à 20, et que vous connaissez tous certainement. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout ceci pour souligner qu'avant de pouvoir parler utilement des caractères d'un homme de Dieu, il nous faut d'abord vérifier si nous connaissons le seul vrai Dieu d'une connaissance qui n'enfle pas, mais d'un amour qui édifie, comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 8, versets 1 et 2. Car celui qui aime Dieu est connu de lui. Nous lisons donc dans le chapitre 8. Nous avons tous la connaissance. Et c'est vrai. Mais la connaissance, si c'est que la connaissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entre. Mais la charité ou l'amour, je préfère le mot amour, il édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est comme Dieu. C'est ça la relation. C'est s'il y a cet amour, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alors, à l'écoute des Écritures, de la loi, des psaumes, des prophètes, nous allons découvrir que le vrai Dieu a voulu être le Dieu des hommes. Et je voudrais commencer par cela, en soulignant bien ceci. Avant de vous parler des hommes de Dieu, je voudrais souligner que Dieu a voulu être le Dieu de l'homme. Et ça me bouleverse. C'est passé il y a deux nuits, vraiment toutes ces heures de la nuit en prière devant lui. Et cette vérité que Dieu a voulu être le Dieu de l'homme s'est de nouveau emparée de mon cœur. Le vrai Dieu a voulu être le Dieu de l'homme. Et quand nous aurons bien saisi cela, alors nous pourrons découvrir ce qu'est un homme de Dieu. Je veux croire que le Saint-Esprit nous guidera lui-même dans notre cheminement au cours de ces moments où le verset clé de nos rencontres sera toujours, comme cela a été lu, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, que nous pouvons relire, parce qu'il faut nous imprégner de cela. C'est le secret. Toute écriture est inspiré de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, justement, il y a là cette expression qui va nous occuper, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. C'est ce que Dieu désire. Avoir des hommes et des femmes qui soient formés par lui, par les Écritures, et qui soient propres à toute bonne œuvre. Alors, nous nous mettons donc à l'écoute des Écritures dès ce soir, mais en prenant garde, comme le disait Jésus, à la manière dont nous écoutons. Luc 8. Verset 18, ça c'est très important, et c'est une exhortation de Jésus, prenez garde à la manière dont
vous écoutez. Luc 8, verset 18. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Ça, c'est grave. C'est grave. Nous allons prendre garde à la manière dont nous écoutons, parce que nous voulons recevoir davantage. Et avec Paul, alors, nous reconnaissons que tout ce qui a été écrit dans la Bible et qui nous a été communiqué l'a été pour notre instruction. Il n'y a pas une page de la Bible dans ces journées que nous allons passer ensemble qui ne nous révélera pas un trait concernant ce qu'est un homme de Dieu. Je lis dans ce chapitre 15, le verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance, chapitre 15 des Romains, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ça rejoint exactement ce que nous avons lu dans la deuxième épître à Timothée. Et de même, nous admettons ce que Paul déclare aux Corinthiens au chapitre 10 de sa première épître, qui confirme ce que nous venons de vous dire, chapitre 10, verset 6. Toutes ces choses qui sont arrivées à Israël sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Et ce verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et pour nous encourager, lisons encore le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire mesurée. Et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et alors, si cela est vrai au sujet de tout l'Ancien Testament, de toutes ces histoires que nous allons découvrir dans l'Ancien Testament, que ces écritures sont inspirées de Dieu, Que devons-nous penser alors du Nouveau Testament? Est-ce que le Nouveau Testament, les évangiles, les actes, les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean, de Jude, l'Apocalypse, est-ce que tout cela, est-ce qu'on peut aussi appeler des écritures inspirées? Que devons-nous penser? Les Juifs nous disent, n'est-ce pas, les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Et c'est vrai. Ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament les Écritures concerne d'abord l'Ancien Testament. Quand Jésus parlait des Écritures, les Évangiles n'étaient pas encore écrits. Les Épîtres n'existaient pas encore. De sorte que c'est, il revêtait de son autorité l'Ancien Testament. Mais, qui est-ce qui a choisi les auteurs du Nouveau Testament? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui a choisi ceux qui ont écrit les évangiles, comme aussi les épîtres. Il a choisi ses témoins. Et alors, si vous lisez dans Romains, au chapitre 16, parce que je crois que c'est très important que nous soulignons cela, verset 25 du chapitre 16 des Romains, Paul dit ceci, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Donc, tout ce que nous lisons maintenant dans les Épîtres a la même autorité que l'Ancien Testament. Ce sont des écrits prophétiques. Et si vous lisez Colossiens 1, versets 25 à 26, parlant de l'Église, l'apôtre Paul dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement quoi? Qu'est-ce que Paul annonçait? La parole de Dieu. Donc, le Nouveau Testament, c'est aussi la parole de Dieu. Il n'y a pas les paroles de Paul et puis les paroles de Jésus-Christ. Les paroles que Paul annonçait, c'était la parole de Dieu. Il le dit clairement ici. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu et le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Prenez maintenant Éphésiens 3, verset 3, pour avoir encore une base concernant ce que nous allons voir. Verset 3 du chapitre 3, Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Donc les auteurs du Nouveau Testament sont des saints envoyés par Dieu, des prophètes du Christ, que nous avons été pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, donc ce que les Thessaloniciens ont reçu de l'apôtre, c'était quoi? La parole de Dieu. Que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme des paroles des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est quelque chose de merveilleux. Quand on peut croire cela, comme des enfants, alors nous avons un fondement et nous ne nous laisserons pas emporter par tout vent de doctrine. Ça, c'est ce que dit Paul de l'Écriture. Maintenant, écoutons encore l'apôtre Pierre pour avoir un témoignage complet. Au chapitre premier de sa première épître de Pierre, il nous dit après nous avoir donné quelques exhortations, verset 22, ayant purifié vos âmes. Comment est-ce qu'on purifie nos âmes? En obéissant. En obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente. Donc, elle est actuelle, hein. Elle demeure. Elle est normative pour notre temps. Parce qu'il y en a beaucoup de théologiens qui n'y croient pas qu'elle est normative. C'était les idées de Paul, c'était l'influence de son temps. Non. Nous avons été régénérés par la vivante et permanente parole de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par quoi? Par l'Évangile. Donc, à travers toutes les pages de la Bible, qu'est-ce que vous trouvez? La parole de Dieu. Ce sont des auteurs différents, ça n'a aucune importance pour nous, mais ce que nous croyons, c'est que ce qui est écrit vient non pas du cœur de ces hommes, mais de Dieu. Et le même apôtre nous le dit bien dans la seconde de ses épîtres, au chapitre premier, il nous dit verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit et d'Arbidi que de saints hommes de Dieu ont parlé de sa part. Ce sont des hommes de Dieu que nous trouvons dans le Nouveau Testament et qui nous ont parlé de la part de Dieu. Et si vous allez dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, vous avez ce verset qui est bien connu, où Jean l'apôtre, après nous avoir lui-même écrit ces trois lettres, où il dit que celui qui est de Dieu, nous écoute. Donc quand on écoute Jean, on écoute Dieu lui-même. Celui qui est de Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Vous avez ça dans le chapitre 4 de la première épître de Jean. Mais à la fin, dans l'Apocalypse, il dit, « Je le déclare, verset 18, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrite dans ce livre. » Donc, mes amis, les Écritures sont pour nous l'expression permanente des pensées et de la volonté de Dieu, munies comme telles de son autorité. Elles sont inspirées de Dieu, et la vérité pour nous, c'est donc de découvrir la pensée de Dieu à l'égard de toute chose. Or, ce que nous disions, c'est que nous devons d'abord prendre conscience que Dieu a voulu être le Dieu des hommes et que ce qu'il a été hier pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour Moïse, pour Josué, pour les juges, pour les rois, pour les prophètes, il veut l'être pour nous, présent avant l'avenir. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que je le crois moi-même? Quand je lis la parole, ces hommes, c'est pas simplement des hommes de l'histoire sainte. C'est des hommes qui me montrent, aujourd'hui, en 1987, ce que Dieu peut être pour vous et pour moi. Et ça, ça me remplit de joie. Il est apparu à Abraham, acte 7, verset 2. Il s'est révélé à lui d'une façon personnelle. Et alors, le serviteur d'Abraham, comment appelle-t-il Dieu quand il prie? Relisez le chapitre 24 de la Genèse. Il prie le Dieu de son Seigneur, Abraham. C'est le Dieu de son Seigneur Abraham. Mais on sait que Dieu, c'est le Dieu d'un homme. C'est le Dieu de son Seigneur Abraham. Je vous cite cela seulement pour que vous puissiez y penser. Mais ensuite, quand Dieu parle à Isaac, comment se révèle-t-il à lui dans Genèse 25? Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Vous remarquez ça? Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Quand Dieu veut se faire connaître, il se réclame de qui? D'un homme. Hein? Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Est-ce qu'à nos enfants, Dieu peut leur dire, je suis le Dieu de ton père? Et vous savez, ça ferait quelque chose, hein, pour nos enfants. Le Dieu de mon père, oui, mais mon père, je sais qu'il vit avec Dieu, je sais que Dieu lui répond, je sais que quand il prie, il est exaucé aussi. Il a des épreuves, mais il les traverse. Avec, je suis le Dieu de ta mère. C'est quelque chose, mes amis. Prenez conscience de cela. Dieu veut être votre Dieu. Il veut être le Dieu de l'homme et il veut se réclamer de nous. D'hommes de chair qui ont, comme nous le verrons, des manquements, des défaillances. Mais que Dieu n'abandonne pas, que Dieu ne laisse pas. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac. Mais il est aussi le Dieu de qui? De Jacob. Ce Jacob s'y retort. Ce Jacob qui est un menteur, qui est un trompeur, eh bien Dieu s'appelle aussi le Dieu de Jacob. Et c'est même quelque chose d'extraordinaire parce que moi je me dis, Jacob au fond c'est ma vie, c'est notre vie à nous. Des hauts, des bas, toutes sortes de faiblesses. On fait des plans sans même consulter Dieu, puis ça ne marche pas. Et on a des ennuis. Oh, le pauvre Jacob. Trompeur, trompé. Il a trompé son père. Il a trompé son frère. Alors il aura un bon père pour le tromper aussi. Tu verras ce que c'est qu'être trompé. Puis il aura ses fils pour le tromper. Au sujet de Joseph. Pauvre Jacob. Mais pourtant, Dieu lui est apparu et il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Il lui dit, je suis le Dieu, je suis ton Dieu. Le Dieu de, et lui-même, à la fin de sa vie, il pourra dire à Joseph, le Dieu devant lequel mes pères ont marché, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a été mon berger. Il ne dit pas qu'il a bien marché, mais il reconnaît que Dieu a été son berger. C'est-à-dire celui qu'il a toujours ramené dans le chemin. Mes pères ont marché devant Dieu, mais c'est le Dieu des hommes. Et quand il est apparu à Moïse, nous allons terminer, qu'est-ce qu'il dit? Quand Moïse a 80 ans, qu'il est derrière le désert et qu'il voit le buisson ardent, comment est-ce que Dieu se fait connaître à lui? Je suis le Dieu de ton père. Comment est-ce qu'il appelait son père? Aram. Aram. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu de ton père. Or, Moïse avait quand même connu son père avant d'être emmené à la cour du Pharaon. Et sa mère lui avait parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu des hommes. Eh bien, le Dieu de Moïse comme nous allons le voir demain. Il s'est révélé en Jésus-Christ finalement. Il est le Dieu de l'homme. Et aujourd'hui, pour se faire connaître, Dieu peut-il se réclamer de nous ? Jésus est venu. Il croyait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il disait que Dieu n'était pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pour lui, tous étaient vivants. Luc 20, verset 38. Mais comment appelait-il son Dieu, Jésus ? Il l'appelait son Père. Il appelait Dieu son propre Père, Jean 5, verset 8. Et il disait, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jean 14, verset 9. Il était la parfaite image de Dieu. Et c'est par lui que nous devenons, en recevant Jésus, nous devenons quoi ? À tous ceux qui l'ont reçu, nous devenons enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit Jean. Oh, je demande à Dieu que cette nuit, il se fasse quelque chose par la puissance du Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. Vous l'êtes, mais vos circonstances personnelles. Essayez. Tout est entre les mains de Dieu. Nous en avons tous des circonstances personnelles, nous avons tous des combats, nous avons tous des luttes. Nous sommes tous peut-être dans des situations qui nous semblent inexplicables. Nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir ou comment ceux que nous aimons s'en sortiront. Mais vous avez Dieu, le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui peut tout, le Dieu qui n'a pas dit son dernier mot. Vous êtes son enfant chéri. Alors aujourd'hui, je dirai seulement ceci, et c'est vraiment la dernière parole. Comme au temps de Jérémie, Dieu dit, cherchez-moi un homme. Comme au temps d'Ézéchiel, au chapitre 22, Dieu déclare, j'ai cherché un homme. Un homme qui devienne quoi ? Le Dieu. Dieu est devenu notre Dieu. Mais nous, est-ce que nous sommes des siens ? Et pas simplement des siens pour aller un jour dans l'éternité bienheureuse, mais des siens pour que Dieu puisse faire quelque chose avec nous autres, là où nous sommes. Des hommes nouveaux. Oubliez vos faiblesses, oubliez tout votre passé. C'est ce que faisait Paul. Il ne vivait pas de son passé. Oubliant les choses qui sont derrière. Parce que quand on regarde notre passé, on pourrait paralyser tous. Nous avons tous des lacunes, tous des manquements. Et nous nous sentirions accusés de bien des choses. Mais Jacob, comment est-ce qu'il est mort en finale ? En adorant. Ah, c'est ça qui est beau. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez été jusqu'à ce jour. Mais pensez à ce que le Seigneur veut faire de vous. Je cherche un homme. Un homme qui soit vraiment pour lui. Et cet homme sera un homme de Dieu. Et demain, eh bien, nous nous occuperons alors de ce qu'est un homme de Dieu. Prions. Dieu notre Père, nous voulons revenir à ce verset de l'Écriture qui nous dit que tout ce qui se trouve dans les pages du livre est inspiré de Dieu et que tout est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre. Peut-être ce soir, nous avons besoin non seulement d'être enseignés, nous connaissions peut-être tous ces enseignements, mais nous avions besoin de nous les rappeler. Pour être instruits à nouveau à la source de toute vérité. Nous savons ce que tu étais pour Abraham, nous savons ce que tu étais pour Isaac, nous savons ce que tu étais pour Jacob. Tu es le même. Nous savons ce que tu as été pour Moïse. Nous savons ce que tu as été pour Samuel, pour tous ces hommes de l'Écriture. Que nous puissions croire encore plus que ce que tu as été pour Jésus qui t'appelait son Père. Tu veux l'être pour nous aujourd'hui. Et ce que tu as fait pour Jésus, tu veux le faire pour nous. Car nous croyons la parole de Jésus qui a dit, Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donne-nous ce soir de croire ces paroles. De les croire du fond de notre cœur. Afin que dès l'aurore s'ouvre pour nous une vie toute nouvelle. Et que nous puissions te faire confiance pour devenir réellement tes hommes à toi jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Alors nous avancerons quatre, puis nous arriverons à notre épître, à Timothée, la première épître. Parce qu'il y a 75 fois le terme « homme de Dieu » dans l'Ancien Testament, vous ne le trouvez qu'une fois nommé dans le Nouveau Testament. Par Paul, qui nomme Timothée un homme de Dieu. Timothée est un homme de Dieu. C'est Paul qui dit, toi, ô homme de Dieu. Il y a l'autre verset qui dit, comment nous pouvons devenir homme de Dieu, n'est-ce pas? Il y a deux fois l'expression homme de Dieu dans les épîtres à Timothée. Mais c'est seulement Timothée qui est appelé un homme de Dieu. Alors, vous verrez, nous allons être nourris par la parole. Et en final, je suis certain que Dieu fera plus que nous donner une certaine connaissance, mais qu'il accomplira sa volonté pour chacun. Laissons-nous faire. Alors, demain matin, on se retrouve.